Chapitre 201. Ô toi qui es emporté par l'amour divin, le soleil de vérité s'est levé à l'horizon de ce monde et a dardé ses rayons de direction divine. La grâce éternelle n'est jamais interrompue, et cette grâce éternelle a produit un fruit, la paix universelle. Sois assuré que, en cette ère de l'esprit, le royaume de paix dressera son tabernacle sur les sommets du monde, et que les commandements du prince de la paix régiront les artères et les nerfs de chaque peuple au point d'attirer, dans son ombre protectrice, toutes les nations de la terre. Aux sources d'amour, de vérité et d'unité, le fidèle berger abreuvera ses moutons. Ô servante de Dieu, il faut en premier lieu établir la paix parmi les hommes, en attendant qu'elle conduise finalement à la paix parmi les nations. C'est pourquoi, ô vous Bahaï, efforcez-vous de tout votre pouvoir de créer, par la puissance de la parole de Dieu, l'amour véritable, la communion spirituelle et des liens durables parmi les individus. Telle est votre mission. Chapitre 202. Ô vous, amoureux de la vérité, vous, serviteurs de l'humanité, de la floraison de vos pensées et de vos espérances, me sont parvenus de fragrants effluves. C'est pourquoi un sens intime du devoir m'oblige à tracer ces lignes. Observez combien le monde est divisé contre lui-même. Combien nombreuses sont les nations, rouges de sang, leur poussière même est plaquée de sang. Les flammes de la discorde sont montées si haut que jamais dans le passé, ni au Moyen-Âge, ni au cours de siècles récents, l'on a connu guerre si hideuse, semblable aux meules prenant pour grain les crânes des hommes. Et même pire encore, car de florissantes nations ont été réduites à de la rocaille, des cités ont été rasées, et maints villages, jadis prospères, ont été dévastés. Des pères ont perdu leurs fils, et des fils ont pleuré leurs pères. Des mères se sont consumées dans les larmes à la mort de leurs enfants. Des enfants se sont trouvés orphelins, et des femmes contraintes à errer, vagabondes et sans gîte. À tous égards, l'humanité est tombée bien bas. Les cris perçants d'enfants privés de leur père et les voix angoissées des mères se font entendre, s'élevant jusqu'au ciel. Et l'origine de toutes ces tragédies, ce sont les préjugés. Préjugés raciaux et ethniques, préjugés religieux et politiques. Et la cause première du préjugé, c'est l'imitation aveugle du passé. Imitation en matière de religion, d'attitude raciale, de sentiment national et de politique. Aussi longtemps que persistera cette imitation servile du passé, les fondements de l'ordre social continueront à être exposés aux quatre vents du ciel, et l'humanité sera menacée des pires dangers. À présent, dans un âge aussi illuminé que le nôtre, où des réalités jusque-là ignorées par l'homme ont été dévoilées, où les secrets des choses créées ont été révélés, et où le matin de vérité est apparu, éclairant le monde, est-il admissible que des hommes déclenchent une guerre effroyable qui conduise l'humanité à sa perte? Par le Seigneur Dieu, non. Jésus-Christ invita le genre humain tout entier à l'amitié et à la paix. À Pierre, il dit « Rengaine ton épée », voir Jean 18, 11. Tel était le commandement et le conseil du Seigneur Christ, et aujourd'hui. Pourtant, tous les chrétiens, sans exception, ont sorti leurs épées des fourreaux. Combien grande est la contradiction entre de tels actes et le texte si limpide de l'Évangile. Il y a 60 ans, apparut Baha'u'llah, tel l'astre du jour sur la Perse. Il déclara que les cieux du monde étaient obscurs, que cette obscurité était de mauvais augure et que de terribles guerres éclateraient. De la prison d'Aka, il s'adressa au Kaiser allemand dans les termes les plus clairs, lui disant qu'une grande guerre était en train de se préparer et que sa capitale, Berlin, se répandrait en lamentations et en gémissements. Il écrivit de même au souverain ottoman, bien qu'il fût lui-même la victime de ce sultan et un captif en sa prison. Il était en effet retenu prisonnier dans la forteresse d'Aka. Et déclara nettement que Constantinople subirait une transformation soudaine et radicale, si importante que les femmes et les enfants de cette cité donneraient libre cours à leurs larmes et à leurs lamentations. En résumé, il s'adressa en ces termes à tous les monarques et présidents de la terre, et tout se passa exactement comme il l'avait prédit. Il est sorti de sa puissante plume divers enseignements sur la prévention de la guerre, et ceux-ci ont été propagés à travers le monde. Le premier enseignement est la recherche indépendante de la vérité, car l'imitation aveugle du passé entrave le développement spirituel. Lorsque chaque âme fera sa propre recherche sur la vérité, alors la société sera délivrée de l'obscurantisme consistant à répéter éternellement le passé. Son deuxième principe est l'unité de l'humanité. Tous les hommes sont les brebis de Dieu, et Dieu est leur berger aimant, qui prend tendrement soin de tous sans favoriser tel ou tel autre. Tu ne peux distinguer aucune différence dans la création du Dieu de miséricorde. Voir Coran 67, 3. Ils sont tous ses serviteurs et tous implorent sa grâce. Son troisième enseignement est que la religion est une puissante forteresse, mais qu'elle doit engendrer l'amour et non la malveillance et la haine. Si elle devait conduire à la méchanceté, au mépris et à la haine, alors elle serait sans valeur aucune. Car la religion est un remède, et si le remède provoque la maladie, alors il faut en abandonner l'usage. Quant aux préventions d'ordre religieux, racial, national et politique, tous ces préjugés s'attaquent aux racines mêmes de la vie humaine. Ils engendrent tous des effusions de sang et la perdition du monde. Aussi longtemps que survivront de tels préjugés, il y aura des guerres continuelles et effroyables. Pour remédier à cet état de choses, il faut instaurer la paix universelle. Pour y parvenir, devra être institué un tribunal suprême, représentatif de tous les gouvernements et de tous les peuples. Les problèmes, tant nationaux qu'internationaux, devront lui être soumis, et tous devront appliquer les décrets de ce tribunal. Si un gouvernement ou un peuple quelconque ne s'y conformait pas, alors le monde tout entier se dresserait contre ce gouvernement ou ce peuple. Un autre enseignement de Baha'u'llah est l'égalité entre les hommes et les femmes, et leur égale participation à tous les droits, et il existe de nombreux principes analogues. Il est désormais évident que ces enseignements constituent la vie et l'âme même du monde. Vous qui êtes des serviteurs de la race humaine, efforcez-vous de tout votre cœur de délivrer l'humanité de cette obscurité et de ces préjugés qui font partie de la condition humaine et du monde matériel, afin que l'humanité puisse frayer son chemin vers la lumière du monde de Dieu. Vous êtes, Dieu soit loué, familiarisé avec les divers principes, institutions et lois du monde. Or, aujourd'hui, seuls ces divins enseignements peuvent assurer à l'humanité paix et sérénité. Sans ces enseignements, jamais cette obscurité ne disparaîtra. Jamais ces maladies chroniques ne seront guéries. Bien au contraire, elles deviendront de jour en jour plus menaçantes. Les nations balkaniques demeureront insatisfaites. Leur agitation se développera. Les puissances vaincues continueront à s'agiter. Elles auront recours à toute mesure susceptible de rallumer la flamme de la guerre. Les mouvements créés de fraîche date et de portée internationale déploieront des efforts extrêmes pour faire avancer leurs desseins. Le mouvement dit de gauche acquerra une grande importance et son influence se propagera. Efforcez-vous par conséquent, avec des esprits et des cœurs illuminés, avec une force issue du ciel, de devenir comme un bienfait de Dieu pour l'homme et de faire naître pour toute l'humanité le bien-être et la paix. Chapitre 203. Ô toi qui es épris de l'Alliance, la beauté bénie a promis à ce serviteur que des âmes seraient éduquées pour être les incarnations mêmes de la direction divine, et des bannières de l'Assemblée céleste, des flambeaux de l'unicité de Dieu et des étoiles de sa vérité pure, scintillant dans les cieux où seul règne Dieu. Ces âmes donneraient la vue aux aveugles et permettraient aux sourds d'entendre. Elle rendrait la vie aux morts. Elle confronterait tous les peuples de la terre plaidant leur cause à l'aide de preuves du Seigneur des sept sphères. C'est mon espérance que dans sa générosité, il suscitera bientôt ses âmes et que sa cause sera exaltée. Or, l'aimant qui attirera cette grâce, c'est la fermeté dans l'Alliance. Rends grâce à Dieu de t'avoir permis d'être le plus ferme parmi les fermes. Ô mon Dieu, aide ton serviteur à exalter la parole et à réfuter ce qui est vain et erroné, à établir la vérité, à propager à tout vent les versets sacrés, à révéler les splendeurs et à faire poindre dans le cœur des justes la lumière du matin. Tu es en vérité le généreux, le miséricordieux. Chapitre 204. Ô phénix de cette flamme immortelle allumée dans l'arbre sacré. Baha'u'llah, que ma vie, mon âme, mon esprit soient offerts en sacrifice à ses humbles serviteurs, a, au cours des derniers jours de sa vie terrestre, formulé la promesse la plus formelle que, par les ondées de la grâce divine et avec l'aide et l'assistance garanties par son royaume d'en haut, apparaîtraient des âmes et des êtres saints qui, tels des étoiles, orneraient le firmament de la direction divine, illumineraient l'aurore de tendre bonté et de générosité, manifesteraient les signes de l'unité divine, brilleraient de la lumière de sainteté et de pureté, recevraient leur pleine mesure d'inspiration divine, élèveraient bien haut le flambeau sacré de la foi, se tiendraient solides comme le roc et immuables comme la montagne, et deviendraient des lumières dans les cieux de sa révélation, de puissants instruments de sa grâce, des moyens de dispenser l'infinie mansuétude de Dieu, des héros invoquant le nom du seul vrai Dieu, et des architectes posant le suprême fondement du monde. Ils œuvreront sans cesse, de nuit comme de jour, ne prêteront garde ni aux épreuves ni aux infortunes, ne souffriront aucun répit dans leurs efforts, ne chercheront aucun repos, délaisseront tout bien-être et tout confort, et, détachés et immaculés, consacreront chaque moment fugitif de leur vie à la propagation de la fragrance divine et à l'exaltation de la sainte parole de Dieu. Leurs visages rayonneront d'un bonheur céleste, et leurs cœurs seront remplis de joie. Leurs âmes seront inspirées, et leurs principes demeureront inviolés. Ils se dissémineront à travers le monde et voyageront en toute région. Ils élèveront leur voix dans chaque assemblée, orneront et animeront chaque réunion. Ils parleront dans chaque langue et interpréteront chaque signification cachée. Ils révéleront les mystères du royaume et manifesteront à chacun les signes de Dieu. Ils brûleront avec éclat, telle une lampe dans le cœur de chaque réunion, et rayonneront, telle une étoile, au-dessus de chaque horizon. Les douces brises issues du jardin de leur cœur parfumeront et raviveront les âmes des hommes, et les révélations de leurs esprits, semblables à des ondées, revigoreront les peuples et les nations du monde. J'attends anxieusement qu'apparaissent ces êtres sacrés. Et pourtant, jusqu'à quand retarderont-ils leur venue? Je prie et supplie ardemment, à la tombée du jour et à l'aurore, que ces scintillantes étoiles déversent bientôt leur éclat sur le monde, que ces visages sacrés soient dévoilés aux yeux des mortels, que les armées de l'assistance divine remportent la victoire, et que les flots de grâce, surgis de ces océans célestes, se déversent sur l'humanité tout entière. Priez, vous aussi, et suppliez-le afin que, grâce à l'aide généreuse de l'ancienne beauté, ces âmes puissent être dévoilées au regard du monde. Que la gloire de Dieu repose sur toi et sur celui dont le visage est éclairé de cette lumière éternelle qui émane de son royaume de gloire. Chapitre 205. Ô vous, âmes respectées, à force d'imiter continuellement les coutumes anciennes et surannées, le monde s'était obscurci comme une nuit ténébreuse. Les fondements des enseignements divins étaient tombés dans l'oubli. Leur substance avait été totalement délaissée, et les hommes se cramponnaient en quelque sorte à des épluchures. Les nations, telles des vêtements en loques, étaient tombées dans un état pitoyable. De cette obscurité est sortie la splendeur matinale des enseignements de Baha'u'llah. Il a revêtu le monde d'un habit neuf et magnifique. Et cet habit neuf, ce sont les principes envoyés par Dieu à l'humanité. À présent, s'est ouvert l'âge nouveau, et la création est née à nouveau. L'humanité a revêtu une vie nouvelle. L'automne est terminé, voici le printemps revivifiant. Toutes choses sont désormais renouvelées. Les arts et les industries ont été relancés, la science connaît de nouvelles découvertes, et l'on assiste à des inventions nouvelles. Il n'est pas jusqu'au moindre détail des affaires humaines, tels que l'habillement et les effets personnels, et même les armes, qui ne soient ainsi renouvelées. Les lois et procédures de chaque gouvernement ont été révisées. Le renouveau est à l'ordre du jour. Or, toutes ces nouveautés ont leur origine dans les déversements de grâces et de faveurs prodigieuses émanant du Seigneur de royaume et qui ont renouvelé le monde. Ainsi, les hommes doivent être complètement libérés de leurs anciens modèles de pensée, afin que toute leur attention se concentre sur ces nouveaux principes, car ils sont la lumière de ce temps et l'esprit même de cet âge. Tant que ces enseignements n'auront pas été effectivement diffusés parmi les hommes, jusqu'à ce que les vieilles méthodes et les anciens concepts soient effacés et tombés dans l'oubli, ce monde d'existence ne trouvera pas de paix et ne reflétera pas les perfections du céleste royaume. Efforcez-vous de tout votre cœur de rendre les inattentifs conscients, de réveiller ceux qui sont assoupis, d'apporter aux ignorants la connaissance, de donner la vue aux aveugles, de faire entendre les sourds et de rendre les morts à la vie. Il vous incombe de faire preuve d'un tel pouvoir, d'une telle endurance, que tous les témoins en seront étonnés. Les confirmations du royaume vous sont acquises. Que la gloire du Très-Glorieux soit sur vous. Chapitre 206. Louange à celui qui a déchiré les ténèbres, effacé la nuit, écarté et arraché les voiles. Celui dont la lumière a brillé, dont les signes et les témoignages ont été propagés et dont les mystères ont été mis à nu. Alors, ces nuages se séparèrent et déversèrent sur la terre munificence et bienfait, adoucissant toutes choses de leurs ondées, faisant jaillir et tressaillir de joie la fraîche verdure de la connaissance et les jacinthes de la certitude, jusqu'à ce que le monde tout entier fut parfumé des fragrances de sa sainteté. Salutations et louanges, bénédictions et gloire sur ces divines réalités, ces anémones sacrées issues de ce suprême bienfait, de cette grâce inondante qui a mugi, tel un océan de dons et de générosité, lançant ses vagues jusqu'aux cieux. Ô Dieu, mon Dieu, louange à toi qui as allumé le feu de l'amour divin dans l'arbre sacré, sur le sommet de la plus haute des montagnes. Cet arbre qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, voir Coran 24-35. Ce feu qui éclata soudain et se propagea jusqu'à ce que ses flammes s'élèvent et atteignent l'assemblée céleste. Grâce à lui, ces réalités purent capter la lumière de direction divine et s'écrièrent « En vérité, nous avons aperçu un feu sur le versant du mont Sinaï, voir Coran 28-29. Ô Dieu, mon Dieu, rends ce feu chaque jour plus intense, jusqu'à ce que son souffle mette en branle la terre entière. Et toi, mon Seigneur, allume dans chaque cœur la lumière de ton amour, insuffle dans les âmes des hommes l'esprit de ta connaissance, réchauffe leur sein à l'aide des versets de ton unicité. Appelle à la vie ceux qui gisent dans leur tombe, avertis les orgueilleux, propage le bonheur à travers le monde. Fais pleuvoir tes eaux cristallines et dans la réunion des splendeurs manifestes, fais passer à la ronde cette coupe qui est tempérée à la fontaine du camphre. Voir Coran 76-5. Tu es en vérité celui qui donne, celui qui pardonne, l'éternel dispensateur. En vérité, tu es le miséricordieux, le compatissant. Ô vous, bien-aimé de Dieu, la coupe céleste déborde de vin. le banquet de la divine alliance brille des lumières de la fête. L'aurore de toutes les dispensations pointe, les douces brises de grâce soufflent, et du monde invisible parvient la bonne nouvelle des générosités et des présents. Le printemps divin a dressé ses tentes dans des prairies parsemées de fleurs, et les âmes spirituelles respirent de subtils parfums émanant du sabbat de l'esprit, portés par le vent d'est. À présent, le rossignol mystique chante ses odes, et les bourgeons de secrètes significations éclatent en fleurs délicates et gracieuses. Les alouettes des champs sont devenues les musiciennes du festival, et élevant leur voix prodigieuse, elles crient et chantent les mélodies de l'assemblée divine. Soyez bénis, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. Et elles pressent les assoiffés du paradis d'Abba de boire à leur soif. Elles pérorent éloquemment sur l'arbre céleste et profèrent leurs paroles sacrées. Tout ceci afin que les âmes desséchées, parcourant le désert des insouciants, et les âmes flétries, perdues dans les sables de l'indifférence, puissent renaître à la vie trépidante et se présenter aux fêtes et aux réveillons du Seigneur Dieu. Louange à lui. La renommée de sa cause s'est répandue en Orient comme en Occident, et la nouvelle du pouvoir de la beauté d'Abba a envahi le Nord et le Sud. Ce cri, lancé du continent américain, est un cœur de sainteté. Cette clameur qui s'élève des quatre coins du monde jusqu'à l'Assemblée divine, c'est « Ya Baha'u'l-Abba ». À présent, l'Orient est illuminé de gloire et l'Occident est doux comme la rose. Toute la terre est embaumée d'ambre gris et les vents qui soufflent au-dessus du tombeau sacré sont chargés de musc. Bientôt, vous verrez que même les pays les plus obscurs sont illuminés et que les continents d'Europe et d'Afrique sont devenus des jardins de fleurs et des forêts d'arbres en fleurs. Mais comme l'aurore de cet astre du jour apparut en Perse et que de cet Orient le soleil brilla sur l'Occident, c'est notre plus fervent espoir que les flammes du feu de l'amour luisent toujours plus intensément dans ce pays et que la splendeur de cette foi sacrée y devienne toujours plus étincelante. Que le tumulte engendré par la cause de Dieu ébranle ce pays jusqu'à ses fondements mêmes. Que la force spirituelle de sa parole se manifeste au point de fer de l'Iran, le centre et le foyer du bien-être et de la paix. Que la rectitude et l'esprit de conciliation, l'amour et la confiance émanant de l'Iran, confèrent l'immortalité à tous les habitants de la terre. Que ce pays dresse sur les plus hauts sommets la bannière de l'ordre public, de la plus pure spiritualité et de la paix universelle. Ô vous, bien-aimés de Dieu, en cette dispensation, la dispensation Bahá'í, la cause de Dieu est esprit sans mélange. Sa cause ne procède pas du monde matériel. Elle n'est destinée ni à la lutte, ni à la guerre, ni aux actes de malveillance ou d'opprobre. Son but n'est ni de la disputer à d'autres croyances, ni de susciter des conflits avec les nations du monde. Sa seule armée est l'amour divin. Sa seule joie est le vin limpide de la connaissance de Dieu. Sa seule bataille est l'exposé de la vérité. Sa seule croisade est dirigée contre l'égoïsme persistant et les néfastes impulsions du cœur humain. Sa victoire est celle de se soumettre et de céder, et sa gloire éternelle, c'est son désintéressement. En résumé, la cause de Dieu est esprit et rien d'autre. Si ce n'est pas nécessaire, ne blesse pas le serpent dans la poussière. Et pire encore, ne blesse pas un homme. Si tu le peux, n'effraie pas la fourmi. Surtout, ne frappe pas ton frère. Que tous vos efforts tendent vers ce but. Devenir des sources de vie et d'immortalité, de paix, de bien-être et de joie pour chaque âme humaine. Qu'elle vous soit proche ou étrangère, qu'elle vous soit hostile ou favorable. Ne considérez pas la pureté ou l'impureté de sa nature, mais la miséricorde du Seigneur qui englobe toute chose, dont la grâce a illuminé toute la terre et tous ses habitants, et dont la munificence, dans toute sa plénitude, favorise à la fois le sage et l'ignorant. l'inconnu et l'ami sont tous deux assis à la table de sa faveur. De même que le croyant, l'homme qui renie et se détourne de Dieu, joint en même temps les mains pour s'abreuver à l'océan de ses bienfaits. Il sied au bien-aimé du Seigneur d'être les signes et les témoignages de son universelle miséricorde et les incarnations de sa grâce qui surpassent tout. Que tel le soleil, il darde leurs rayons à la fois sur le jardin et sur le tas d'ordures, et tels des nuages printaniers, qu'ils déversent leurs ondées sur la fleur comme sur les épines. Qu'ils ne recherchent que l'amour et la fidélité, qu'ils ne suivent pas les voies de la malveillance, que leurs paroles se confinent aux secrets de l'amitié et de la paix. Tels sont les attributs des âmes justes. Telle est la marque distinctive de ceux qui servent à son seuil. La beauté d'Abba endura les plus affligeantes des calamités. Il souffrit d'innombrables maux et agonies. Il ne connut aucun instant de paix, jamais un souffle de répit. Il erra, sans gîte, à travers les sables du désert et les versants des montagnes. Il fut emprisonné dans une forteresse et dans une cellule carcérale. Mais à ses yeux, sa misérable natte de paille était un trône éternel de gloire, et ses lourdes chaînes la parure d'un souverain. De nuit comme de jour, il vécut sous une épée virevoltante et s'apprêtait à chaque instant à mourir sur la croix. Il endura tout cela afin de pouvoir purifier le monde et le parer des tendres miséricordes du Seigneur Dieu, de pouvoir lui rendre le repos, de faire disparaître conflits et agressions, afin que la lance et la lame acérées soient échangées contre la fraternité affectueuse, que la malveillance et la guerre fassent place à la sécurité, à la douceur et à l'amour, que les champs de bataille de la haine et du courroux deviennent des jardins de délectation et que des lieux où, jadis, s'affrontèrent des armées assoiffées de sang se transforment en jardins de loisirs embaumant les parfums. Que la guerre soit un sujet d'opprobre et que le recours aux armes soit abandonné par tous les peuples, telle une maladie repoussante. Que la paix universelle élève ses pavillons sur les plus hautes montagnes et que la guerre disparaisse à jamais de cette terre. C'est pourquoi les bien-aimés de Dieu doivent péniblement, à la sueur de leur front, élever, nourrir et entretenir cet arbre de l'espérance. En quelque pays qu'ils demeurent, ils doivent secourir et accompagner de tout leur cœur ceux qui leur sont proches ou très éloignés. Que pourvus de qualités semblables à celles du ciel, ils promeuvent les institutions et la religion de Dieu. Qu'ils ne perdent jamais courage, ne soient jamais abattus ni affligés. Plus ils rencontrent d'antagonisme, plus ils doivent manifester leur propre bonne foi. Plus ils ont à faire face à des tourments et à des calamités, plus généreusement ils doivent passer à la ronde la coupe d'abondance. Tel est l'esprit qui deviendra la vie du monde. Telle est la lumière diffuse en son cœur. Et celui qui peut être ainsi, mais qui agit autrement, n'est pas digne de servir au seuil sacré du Seigneur. Ô vous, bien-aimés de Dieu, le soleil de vérité brille depuis des cieux invisibles. Sachez la valeur de ces jours. Levez vos têtes et devenez aussi grands que des cyprès dans ces courants torrentiels. Réjouissez-vous de la beauté du narcisse du Najd, car la nuit tombera et la fleur ne sera plus. Ô vous, bien-aimés de Dieu, louange à lui, le brillant étendard de l'Alliance flotte plus haut jour après jour, alors que le drapeau de la perfidie a été renversé et mis en berne. Les agresseurs, plongés dans les ténèbres de l'ignorance, ont été ébranlés au plus profond d'eux-mêmes. Ils sont à présent comme des sépulcres en ruine, et pareils à des créatures aveugles qui habitent sous la terre, ils rampent autour d'un coin de la tombe, et de ce trou produisent de temps à autre des sons inarticulés et poussent des hurlements tels des bêtes sauvages. Gloire à Dieu! Comment l'obscurité peut-elle espérer vaincre la lumière? Comment les cordes du magicien peuvent-elles retenir un serpent visible pour tous? Alors voyez, elle, la baguette de Moïse, a englouti leur prodige mensonger. Voir Coran 26-31. Ces versets se réfèrent à la baguette de Moïse et aux magiciens. Hélas pour eux, ils se sont abusés d'une fable et pour satisfaire leurs désirs, ont abandonné leur propre nature. Ils renoncèrent à la gloire éternelle en échange de l'orgueil humain et sacrifièrent aux exigences du moi la grandeur dans les deux mondes. De ceci, nous vous avons averti. Sous peu, vous verrez les insensés dans un embarras manifeste. Ô mon Seigneur et mon espérance, aide tes bien-aimés à être constants en ta puissante alliance, à demeurer fidèles à ta cause manifeste et à observer les commandements que tu as édictés à leur intention dans ton livre de splendeur, afin qu'ils puissent devenir des étendards de direction et des phares de l'assemblée d'en haut, des sources de ton infinie sagesse et des étoiles qui nous guident sûrement tandis qu'elles scintillent dans le ciel suprême. Tu es en vérité l'invincible, le Tout-Puissant. Chapitre 207. Ô vous qui êtes tournés vers la beauté exaltée, la nuit, le jour, à l'aube et au crépuscule, je me souviens, et me suis toujours souvenu, dans les royaumes de mon esprit et de mon cœur, des bien-aimés du Seigneur. Je l'implore de dispenser ses confirmations à ces âmes qui résident dans cette contrée pure et sacrée, et de leur accorder la réussite en toutes choses, que dans leur caractère, leur attitude, leurs paroles, leur comportement, en tout ce qu'ils sont et ce qu'ils font, Dieu leur permette de se distinguer parmi les hommes, qu'il les rassemble au sein de la communauté mondiale, leur cœur rempli d'extase, de ferveur et d'amour ardent, de connaissance et de certitude, de constance et d'unité, leur visage à la fois magnifique et rayonnant. Ô vous bien-aimés du Seigneur, ce jour est le jour de l'union, le jour du rassemblement de l'humanité tout entière. En vérité, Dieu aime ceux qui, tels une solide muraille, combattent en rang serré pour sa cause. Voir Coran 61:4. Observez qu'il dit en rang serré, c'est-à-dire en foule, pressés l'un contre l'autre, rivés l'un à l'autre, chacun d'entre eux soutenant ses compagnons. Livrer bataille, comme il est dit dans le verset sacré, cela ne signifie pas en cette dispensation, la plus grande de toutes les dispensations, surgir armé de l'épée, de la lance et de la flèche, mais plutôt armé d'intentions pures, de nobles motifs, de conseils salutaires et efficaces, de divins attributs, d'actions agréables au Tout-Puissant et des célestes vertus. Cela veut dire éduquer l'humanité tout entière, guider tous les hommes, propager à travers le monde les subtils arômes de l'esprit, proclamer les preuves de Dieu, formuler des arguments décisifs et divins, accomplir des actes charitables. Chaque fois que de saintes âmes, attirant les célestes pouvoirs, se lèveront, pourvues de telles qualités spirituelles, et marcheront à l'unisson, en rang serré, chacune de ces âmes sera pareille à 1000 âmes, et les vagues bondissantes de ce puissant océan seront pareilles aux bataillons du concours d'en haut. Quelle bénédiction ce sera, lorsque toutes elles se rassembleront, telles des torrents, des rivières et des courants, des ruisseaux et de simples gouttes, jadis séparées, et formeront, une fois réunies en un seul lieu, une puissante mer. Et l'unité inhérente à tous prévaudra à un tel degré que les traditions, les règles, les coutumes et les distinctions observés dans l'existence illusoire de ces populations, seront effacés et disparaîtront comme des gouttes isolées, une fois que le grand océan d'unité bondira, se dressera et fera rouler ses vagues. Je jure par l'ancienne beauté qu'alors une irrésistible grâce encerclera toute chose et que la mer de grandeur inondera ses rivages, au point que la plus étroite voie d'eau s'élargira tel un océan infini, et que chaque infime goutte sera semblable au grand fond illimité. Ô vous, bien-aimés de Dieu, luttez pour parvenir à cette haute condition, pour tant faire briller la splendeur à travers ces terrestres royaumes que ses rayons se reflèteront d'un point de l'aurore à l'horizon de l'éternité. Ceci est le fondement même de la cause de Dieu. Ceci est l'essence même de la loi de Dieu. Ceci est la puissante structure édifiée par les manifestations de Dieu. C'est pourquoi pointe l'orbe du monde de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur s'établit sur le trône de son corps humain. Ô vous, bien-aimés de Dieu, voyez comment l'exalté, nota le Bab, que les âmes de tous les habitants de la terre soient livrées en rançon pour lui, fit de son cœur béni, pour ce noble but, la cible des lances de l'affliction. Et parce que l'intention réelle de l'ancienne beauté, que les âmes du concours céleste soient sacrifiées pour lui, était de gagner ce même but suprême. L'exalté mit à nu sa poitrine sacrée pour l'offrir en cible à une myriade de balles tirées par les tenants de la méchanceté et de la haine. Et dans une résignation extrême, il connut la mort du martyr. La poussière de ce chemin fut tachée par le sang sacré de milliers et de milliers de saintes âmes. Et que de fois le corps béni d'un loyal amoureux de Dieu fut pendu au gibet. La beauté d'Abba lui-même, que l'esprit de toute existence soit sacrifié à ses bien-aimés, endura toutes sortes d'épreuves, et de son plein gré accepta pour lui-même d'intenses afflictions. Il n'est pas de tourment auquel ne fut soumis son corps sacré, ni de souffrance qui ne lui fût infligée. Combien de nuits, lorsqu'il était enchaîné, passa-t-il dans l'insomnie à cause du poids de son collier de fer? Combien de jours la douleur provoquée par les ceps et les fers ne lui laissa-t-elle nul instant de repos? De Niavaran à Téhéran, ils le firent courir, lui, cet esprit incarné, lui qui avait été habitué à reposer contre des coussins de soie ornementés, enchaîné, pieds nus et la tête découverte. Et sous la terre, dans l'obscurité profonde de cet étroit cachot, ils l'emprisonnèrent en compagnie d'assassins, de rebelles et de voleurs. Ils ne cessaient de l'accabler d'un nouveau tourment, et ils étaient tous persuadés que d'un moment à l'autre, ils subiraient la mort du martyr. Quelque temps après, ils le bannirent de son pays natal et l'exilèrent vers des nations étrangères et lointaines. Durant de nombreuses années en Irak, il ne s'écoula pas un seul instant sans que la flèche d'une nouvelle angoisse ne frappât son cœur sacré. À chaque pulsation de son cœur, une épée s'abattait sur ce corps béni. Il ne pouvait espérer nul moment de repos et de sécurité. De tous côtés, ses ennemis relançaient leurs attaques avec une haine implacable, et à lui seul, il leur résista à tous. Après toutes ces tribulations, ces sévices corporels, ils l'expulsèrent d'Irak en Asie, vers l'Europe, et en ce lieu de cruel exil, d'odieuses épreuves, aux torts accumulés sur lui par le peuple du Coran, s'ajoutèrent alors les venimeuses persécutions, les puissantes attaques, les complots, les calomnies, les hostilités incessantes, la haine et la méchanceté du peuple du Bayan. Ma plume est impuissante à décrire tout cela, mais vous en avez été certainement informé. Alors, après 24 ans passés en cette plus grande prison, dans l'agonie et l'affliction cruelle, ses jours prirent fin. En résumé, l'ancienne beauté fut toujours, durant son passage en ce monde éphémère, un captif enchaîné, vivant sous la menace d'une épée, soumis à des souffrances et à des tourments extrêmes, ou incarcéré dans la plus grande prison. À cause de son affaiblissement physique, provoqué par les afflictions répétées, son corps béni était usé, réduit à un souffle ténu. Il était aussi léger qu'une toile d'araignée, après de si longues souffrances. Et s'il endura ce lourd fardeau, toute cette angoisse semblable à un océan précipitant ses vagues jusqu'aux cieux, s'il porta les lourdes chaînes de fer et s'il devint l'incarnation même de la résignation et de la douceur extrême, ce fut afin de guider chaque âme de cette terre vers la concorde, la fraternité et l'unité, de faire connaître parmi tous les peuples le signe de l'unicité de Dieu pour qu'enfin l'unité première déposée au cœur de toute chose créée portât son fruit prédestiné, et que la splendeur du verset « Tu ne peux voir aucune divergence dans la création du Dieu de miséricorde » voir Coran 67:3, diffusa ses rayons jusqu'aux extrémités de la terre. Le temps des efforts les plus ardents est venu. Ô vous, bien-aimés du Seigneur, luttez et efforcez-vous sans trêve. Et puisque l'ancienne beauté fut exposée jour et nuit sur le terrain du martyr, œuvrons à notre tour avec acharnement, et entendons et méditons les conseils divins. Sacrifions nos vies et renonçons à nos jours éphémères et comptés. Détournons nos regards des vaines chimères des formes divergentes de ce monde, et servons plutôt ce but souverain, ce grand dessein. N'abattons pas, à cause de nos propres imaginations, cet arbre que la main de céleste grâce a planté. N'effaçons pas, par les sombres nuages de nos illusions, de nos intérêts égoïstes, la gloire qui jaillit du royaume d'Abba. Ne soyons pas comme des barrières qui retiennent l'océan houleux de Dieu Tout-Puissant. N'empêchons pas les doux et purs parfums du jardin de la beauté très glorieuse de se répandre jusqu'aux extrémités du monde. N'arrêtons pas en ce jour de l'union retrouvée la verse printanière des bénédictions célestes. Ne permettons pas que les splendeurs du soleil de vérité puissent jamais s'estomper et disparaître. Telles sont les exhortations de Dieu, formulées dans ses livres sacrés, dans ses écritures et ses tablettes, qui prodiguent ses conseils aux âmes sincères. Que la gloire repose sur vous, avec la miséricorde et les bénédictions divines. Chapitre 208. Ô vous, serviteurs au seuil sacré, les armées triomphantes du concours céleste, déployées et rassemblées dans les royaumes d'en haut, sont prêtes à assister et à rendre victorieux ce courageux cavalier qui, avec confiance, éperonne son destrier dans l'arène du service. Heureux ce guerrier sans peur qui, armé du pouvoir de la vraie connaissance, se hâte vers le champ de bataille, disperse les armées de l'ignorance, met en pièces les cohortes de l'erreur, brandit bien haut l'étendard de la direction divine et sonne le clairon de la victoire. Par la droiture du Seigneur, il a remporté un glorieux triomphe et la victoire véritable. Chapitre 209. Ô vous, serviteurs de la beauté bénie, il est clair qu'en ce jour, les confirmations du monde invisible recouvrent tous ceux qui transmettent le message divin. Si la tâche de l'enseignement faisait défaut, ces confirmations seraient entièrement supprimées. Car il est impossible au bien-aimé de Dieu de recevoir son aide, à moins qu'il n'enseigne la foi. L'enseignement doit se poursuivre en toutes circonstances, mais avec discernement. Si ce travail ne peut avoir lieu ouvertement, alors les croyants doivent enseigner en privé, et ainsi susciter la spiritualité et la fraternité parmi les enfants des hommes. Si, par exemple, chaque croyant devient un ami véritable pour l'inattentif et que sa conduite empreinte de rectitude absolue, il fréquente cette âme, qu'il la traite avec la plus grande bonté, symbolisant par lui-même les instructions divines dont il est le dépositaire, les nobles vertus et les modèles de comportement, et que, à tout instant, il agit conformément aux exhortations de Dieu, il est certain que petit à petit, il réussira à éveiller cette personne, autrefois insouciante, et à transformer son ignorance en connaissance de la vérité. Les âmes sont enclines à l'aliénation. Il convient donc, en premier lieu, de veiller à supprimer cette aliénation, car c'est seulement alors que la parole produira son effet. Si un croyant manifeste sa bienveillance envers l'un des négligents, et avec une grande affection l'amène progressivement à comprendre la validité de la cause sacrée, afin qu'il arrive à connaître les fondements de la foi de Dieu et ses implications, une telle personne sera certainement transformée, à l'exception de ces individus rares, semblables à des cendres, et dont les cœurs sont durs comme le roc, ou plus durs encore. Voir Coran 2, 69. Si chaque ami s'efforce ainsi de guider une âme vers le droit chemin, le nombre des croyants doublera chaque année. Ce but peut être atteint avec prudence et sagesse, sans qu'il en résulte nul inconvénient d'aucune sorte. En outre, les enseignants doivent se déplacer largement, et si la diffusion du message devait provoquer des troubles, alors qu'il forme et encourage les croyants, qu'il les inspire, les réjouisse, réconforte leur cœur, qu'il les revivifie et les apaise à l'aide des subtils parfums de sainteté. Chapitre 210. Ô vous, rose dans le jardin de l'amour divin, ô vous, lampe brillant au sein de l'assemblée de la connaissance de Dieu, que les douces brises célestes passent sur vous, que la gloire de Dieu illumine l'horizon de vos cœurs. Vous êtes les vagues de la profonde mer de connaissance, vous êtes les armées massées sur les plaines de certitude, vous êtes les étoiles dans les cieux de compassion divine. Vous êtes les pierres qui mettent en fuite les adeptes de la perdition. Vous êtes des nuages de miséricorde divine au-dessus des jardins de vie. Vous êtes l'abondante grâce de l'unicité de Dieu, déversée sur les essences de toutes choses créées. Sur la tablette déroulée de ce monde, vous êtes les versets de son unicité, et au sommet des hautes tours du palais, vous êtes les étendards du Seigneur. Dans ses charmilles, vous êtes les fleurs et les herbes odorantes. Dans le jardin de roses de l'esprit, vous êtes les rossignols aux chants plaintifs. Vous êtes les oiseaux qui s'élèvent vers le firmament de la connaissance, les faucons royaux sur le poignet de Dieu. Alors, pourquoi êtes-vous éteint, silencieux, figé et morne? Vous devez luire comme l'éclair et pousser une clameur telle le vaste océan. Telle une lampe, vous devez diffuser votre lumière, et pareil aux douces brises de Dieu, souffler à travers le monde. Comme les zéphyrs émanant des célestes charmilles, comme les vents chargés de musc issus des jardins du Seigneur, vous devez parfumer l'atmosphère pour ceux qui possèdent la connaissance, et comme les splendeurs déversées par le véritable soleil, illuminer les cœurs du genre humain. Car vous êtes les brises vivifiantes. Vous êtes les senteurs de jasmin issus des jardins des élus. Alors apportez la vie aux morts et réveillez ceux qui sommeillent. Dans l'obscurité du monde, soyez de radiantes flammes. Dans les sables de perdition, soyez des sources d'eau de la vie. Soyez des instruments de la direction divine. À présent, il est temps de servir. Il est temps de s'embraser. Connaissez la valeur de cette chance, de cette conjoncture propice, qui est grâce infinie, afin qu'elle ne glisse de vos mains. Bientôt notre poignée de jour, notre vie éphémère, ne seront plus, et nous passerons, les mains vides, dans la tombe creusée pour ceux dont la voix s'est tue. C'est pourquoi nous devons lier nos cœurs à la beauté manifeste, et nous cramponner à la ligne de vie qui jamais ne faillit. Nous devons nous préparer à servir, à allumer la flamme d'amour et nous consumer dans sa chaleur. Nous devons délier nos langues jusqu'à embraser le cœur du vaste monde et des rayons éclatants de la direction divine anéantir les armées de la nuit, puis, par amour pour lui, sur le champ du sacrifice, faire abstraction de nos vies. Ainsi, dispersons parmi chaque peuple les précieuses gemmes de la reconnaissance de Dieu. Et par un langage acéré, persuasif, et à l'aide des flèches précises du savoir, écrasons les cohortes de l'égoïsme et de la passion, et hâtons-nous vers le lieu du martyr, là où nous succomberons pour l'amour du Seigneur. Les étendards flottant au vent et au son des tambours, accédons alors au royaume du Très-Glorieux, et rejoignons l'Assemblée Céleste. Heureux ceux qui accomplissent de grandes actions. Chapitre 211. Lorsque les amis ne s'efforcent pas de transmettre le message, ils omettent de commémorer dignement le Seigneur, et ainsi ne voient pas les signes de l'assistance et de la confirmation émanant du royaume d'Abba, et ne captent pas les mystères divins. Toutefois, lorsque le croyant est occupé à enseigner, il est naturellement encouragé, il devient un aimant qui attire l'aide et la générosité divine du royaume, et devient semblable à l'oiseau qui, lorsque pointe le jour, s'enthousiasme lui-même de son propre chant, de son ramage et de sa mélodie. Chapitre 212. C'est dans ces moments-là que les amis de Dieu saisissent l'occasion, se précipitent et remportent le trophée. Si leur tâche se limite à la bonne conduite et au conseil, rien ne s'accomplira. Ils doivent s'exprimer sans détour, exposer les preuves, formuler des arguments clairs, tirer des conclusions irréfutables, établissant la vérité de la manifestation du soleil de réalité. Chapitre 213. Les croyants devraient en toutes circonstances poursuivre activement la tâche de l'enseignement, car les confirmations divines en dépendent. Si un Bahaï s'abstient de s'y engager pleinement, vigoureusement et de grand cœur, il sera privé sans nul doute des bénédictions du royaume d'Abba. Même ainsi, cette activité devrait être tempérée de sagesse. Non pas cette sagesse qui nous fait garder le silence et négliger une telle obligation, mais celle qui exige de nous que nous manifestions de la tolérance, de l'amour, de la bonté, de la patience, un noble caractère, et que nous accomplissions de saintes actions. En résumé, encourager les amis individuellement à enseigner la cause de Dieu et attirer leur attention sur la signification de la sagesse mentionnée dans les Écritures sacrées, qui est elle-même l'essence de l'enseignement de la foi. Mais tout ceci doit être fait avec la plus grande tolérance, afin que les amis puissent bénéficier de l'assistance céleste et de la confirmation divine. Chapitre 214. Suis le chemin de ton Seigneur, et ne profère point de paroles que les oreilles ne puissent supporter d'entendre, car un tel discours est comme de la nourriture succulente donnée à de jeunes enfants. Aussi savoureuse, rare et riche soit-elle, cette nourriture ne peut être assimilée par les organes digestifs d'un nourrisson. En conséquence, que chacun reçoive la mesure exacte à laquelle il a droit. L'homme ne peut révéler tout ce qu'il sait, de même que tout ce qu'il peut révéler ne saurait être considéré comme à propos. Et chaque parole ne peut être jugée conforme à la capacité de ceux qui l'entendent. Telle est la sagesse exemplaire à observer dans tes activités. Ne sois pas oublieux de cette obligation si tu désires, en toutes circonstances, être un homme d'action. En premier lieu, pose le diagnostic et identifie la maladie. Ensuite, prescris le remède, car telle est la méthode parfaite du médecin de talent. Chapitre 215. J'espère que la grâce du seul véritable Seigneur te permettra de propager parmi les diverses tribus les divines fragrances. Ceci est extrêmement important. Si tu parviens à rendre ce service, tu excelleras et seras le premier en ce domaine.